Il y a les arbres déracinés, le ravage des bulbes en terre, pois Congo, piment, échalotes, maïs, la perte de toute une saison. Il y a aussi deux tonnelles dont il ne reste que le nom, la gaguère et l'établissement scolaire. Tout cela engage beaucoup d'efforts à venir, de biens à reproduire, une dette réelle envers la terre, en sus des dettes fictives, réquisitoires et criminelles, qu'ils sont censés payer à Port-au-Prince et à la France. Sans compter le ravage dans les têtes, les faisant tous cauchemarder de tueries animales, début annoncé d'une démence collective.
C'est pas surprise si Jodia m'a chanté pour. Où va les misères que vous passez, pas quoi ma bien fin payer ou. Nous pas moun la grande société, n'a roulé songe croisant Dieu, maman. Pito nous chante souple, relé l'espoir côté lié. Pour nous pas décourager, car nous existons. Maman chérie, c'est où toute vie, détermination. Geste tendresse, affection manquée, tout ça cause des situations. M'gado l'anjo, gade m'lange, c'est que nous tout décapraché, maman. Coutant des mois m'érivés. Maman pa gen jou sacré, li sou te yal existe, la kay fle rose pa rentre. Ou e ke mwen devoué, m'cheche la vie pou m'pa kito soufri. Se pa anvi manke, il pare se jou pa nou an popo rive. Où est que moi dévoué, m'cherche la vie pour m'pa quitter souffrir. C'est pas envie m'manquer, il paraît ces jours pas, nous en poco rivé, maman. Gade Jean la vie, fais-moi casouelle, fais-moi résigner. M'jeune pour être moins pas coupé, vie maman m'trimé, la p'trimé. Pourtant d'en chita n'a parlé, de pourtant d'elle prend les passés, maman. Tout de suite, folle gain de l'eau l'ange, l'osa bon ange moins aller. Même voler moins ta voler, pour le cap consoler. Son vie madame qui gain courage pour lui résister. Après on caresse son tête grattée, lui sourit, m'a fait déraler. Lui dit petite moi nous pas tenir, que montagne pas qu'on déplacer, maman. Tout le monde pas de fête pour errer, monde pas fait pour trop presser. C'est parce que au cas observé qu'il faut une tête chargée. Où est que moi dévoué, m'cherche la vie pour m'pas quitter souffrir. C'est pas envie m'manquer, il paraît ces jours pas, nous on peut arriver. Où est que moi dévoué, m'cherche la vie pour m'pas quitter souffrir. C'est pas envie de manquer, il paraît ces jours pas, nous on peut courir. La 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 la.
Tu vois que je me consacre à trouver la vie pour ne pas te laisser souffrir, chante Mano Charlemagne en créole haïtien. Cette phrase résonne comme un destin que l'on peut entendre également résonner dans un prénom magnifique, un prénom rare, un prénom hébraïque qui, dans son acception religieuse, dit quelque chose comme « Dieu a apaisé, Dieu a consolé ». Avouez que ce n'est pas rien de venir au monde ainsi désigné. Et ce prénom, c'est Néhémie. Cherchez pas, ils sont 12. J'ai vérifié, on estime à 12 le nombre de Néhémie vivant actuellement en France. C'est dire s'ils sont précieux. Et tenez-vous bien, on en tient un. Bonjour Néhémie Pierre Dahomey.
Bonjour.
Et bonjour à tous, bienvenue pour cette Lecture en tête à tête, une émission imaginée par l'association Lecture en tête en partenariat avec l'Autre Radio. Et nous sommes donc aujourd'hui avec Néhémie Pierre Dahomey, auteur de deux romans publiés aux éditions du Seuil, Rapatrié en 2017 et Combat en 2021, auteur invité par Lecture à tête en résidant sur tout le territoire mayennais pour cette saison. Cette chanson que nous venons d'entendre, Man Man par Mano Charlemagne, c'est vous, Néhémie, qui avez eu envie de nous la faire découvrir. Et en la découvrant, on découvre déjà une part de votre sensibilité, on fait déjà connaissance. Mais puisque vous êtes là, on peut encore approfondir. À quoi elle vous renvoie, vous, cette chanson? Qu'est-ce qu'elle vous raconte?
Déjà la beauté de son rythme. Comme les auditeurs ont pu l'entendre, c'est une chanson à la fois douce et vigoureuse, qui a une forme de vigueur dans la douceur. Et on ne peut pas oublier non plus le texte qui consacre la figure de la mère. Mais la figure de la mère, dans ce qu'elle a de douloureux et de, en même temps de combattant. Mmh. La chanson s'appelle tout simplement « Maman ». Maman en créole haïtien. Et Mano Charlemagne porte la parole de tous les enfants qui ont envie de dire quelque chose à leur mère, de tous les enfants qui n'ont pas eu l'occasion de dire quelque chose à leur mère. Et en même temps, la parole de cette mère qui répond aux enfants, à leurs enfants. Donc, cette chanson renvoie pour moi à la douleur et le plaisir de la vie, la douleur et le plaisir de la maternité, tout simplement.
Mmh. J'ai lu Man Man, ce qui est totalement stupide. En fait, c'est donc Maman. Mais pour vous, c'est la maternité. Justement, pour lui, c'est la maternité. Mais on peut se demander aussi, est-ce qu'écrire, ce n'est pas consacrer, comme pour reprendre les textes qu'il chante dans son refrain, trouver la vie pour ne pas laisser souffrir. Est-ce que pour vous, ce serait ça, écrire?
C'est très difficile de comparer quelque chose d'aussi charnière dans la vie à l'acte d'écrire. Tout aussi noble et nécessaire que puisse être cet acte d'écrire, il me paraît que la maternité est plus profonde encore. On entend souvent par métaphore dire qu'on donne naissance à un livre ou qu'un livre, c'est son enfant. Je ne pense pas que ce soit exactement la même chose. Je comprends l'idée, je comprends la métaphore, mais il me semble qu'il y a quelque chose qu'on ne connaîtra pas, et je parle aussi là du point de vue d'un homme, d'un être humain masculin. Il y a quelque chose qu'on ne connaîtra pas quand on ne connaît pas la maternité. Ça ne veut pas dire que c'est regrettable ou que ce n'est pas regrettable, c'est pas le sujet. C'est que hors toute métaphore et comparaison, on ne peut pas dire qu'on connaît la maternité parce qu'on connaît l'acte d'écrire. Il me semble que c'est très différent. Ceci dit, la création a sa force propre. La chanson même de Mano Charlemagne amène quelque chose par son rythme et sa beauté, qui est quelque chose qui est différent du fait de la maternité. Mais je n'oserais pas comparer le fait d'être maman au fait d'écrire.
Alors moi, ce n'est pas le fait d'être maman, c'était en fait le lien m'est venu par votre prénom et pas justement cette exception qui dit « Dieu a consolé » et quand j'entends justement les paroles qui dit « Trouver la vie pour ne pas laisser souffrir ». Enfin voilà, il y a une espèce de triangulation que je voyais avec le texte, pas forcément avec la figure de la mère, mais j'ai bien entendu que vous, elle vous ramène vraiment à la figure maternelle et que c'est ça qui vous touche, qui vous inspire.
Oui, alors ce qui est délicat, c'est qu'il ne suffit pas d'une chanson sur la maternité pour ramener à la figure de la mère. Il y a quelque chose d'ancré même dans cette chanson, la raison pour laquelle je vous ai proposé de l'écouter, et si ça vous allait, de la passer dans cette émission, et je suis très content de votre choix. Il ne suffit pas de parler de la mère pour produire et proposer quelque chose de maternel. enfin maternel, c'est-à-dire qui est à la fois vigoureux, qui berce, et douloureux et qui fait plaisir. Vous savez, je fais partie de ces garçons, ça arrive, je suis le Benjamin, qui a un rapport très fort avec leur mère. C'est un personnage que j'aime beaucoup, ma mère, c'est quelqu'un que je trouve être d'une très grande finesse. Et cette finesse-là ne se retrouve pas nécessairement dans toute œuvre parlant de la mère. Il faut un vrai travail pour y accéder, pour y parvenir. Il me semble que Mano Chalma a atteint ce travail dans cette chanson.
D'accord. On en reparlera, mais par contre, c'est un travail. Vous avez entamé votre travail en littérature, en tout cas votre premier roman, et parlé de la figure de la mère.
Absolument.
Oui.
Absolument. Et bien voilà pourquoi j'ai pris le temps de dire cela, et de répondre cela à votre question, parce que j'y ai consacré moi-même un roman à la figure maternelle et aux différents types de filiation qui peuvent faire la maternité, soit la filiation biologique, donner naissance avec son corps, soit la filiation affective, donner naissance ou recevoir en ayant adopté. Donc, mon premier roman Rapatrié se situe précisément dans ce carrefour de la maternité. C'est pourquoi je ne suis pas insensible à ce qui touche à la maternité dans les œuvres d'art, comme la chanson de Mano Chalma ou comme ce que j'ai tenté de faire moi-même dans Rapatrié.
Bien sûr. En guise d'introduction, à l'introduction, je me suis permis de lire un extrait du deuxième roman, Combat, votre deuxième roman, parce qu'il m'a semblé y entendre résumer un enjeu particulièrement présent dans toute votre œuvre, à savoir l'idée d'incarner par vos personnages une certaine pugnacité face à la violence à la fois historique, politique et sociétale. Ces éléments compris dans vos deux premiers romans, on voit bien dans tout ce que vous avez dit là que pour vous tout cela est même, on va dire, ancré déjà dans la figure maternelle, même si ce n'est pas le sujet principal de ce roman Combat. Mais est-ce que pour vous, tous ces enjeux-là dont je viens de parler, est-ce qu'ils sont la condition de votre geste d'écriture ?
J'aime bien les épopées, les grandes histoires qui mettent en émoi. Plus que les émotions de larmes ou de rire, je cherche dans un roman aussi les émotions, les sentiments de voyage, de sortir de soi, quelque chose qui relève presque de l'extraordinaire. Même si il est notable, et c'est vrai, que souvent la réalité dépasse la fiction. C'est presque un amour pour essayer de mettre la fiction à la hauteur de la réalité. Voilà pourquoi... soit en abordant les figures de la mère dans Rapatrié ou les figures de la conteuse ou des pères, parce qu'il y a deux types de pères aussi dans Combat, ce que je cherche à faire, c'est toujours que les personnages affrontent quelque chose.
Oui, clairement.
Mais affrontent avec détermination.
Vous vous souvenez d'ailleurs du premier mot de votre premier roman ?
Belli.
Ouais, Belli, en entier, je crois que c'est Belliqueuse, il me semble. C'est un prénom dans ce roman, c'est celui
Belliqueuse,
de la figure maternelle.
Belli Marchais, vaillante et décidée. Ouais. Elle s'appelle Belliqueuse.
Ouais.
Et son diminutif, c'est Belli.
Ouais.
Ben, Belliqueuse, le mot se comprend par lui-même.
C'est pas rien comme prénom, ça aussi, comme déterminant.
Et Belli, le diminutif, ça renvoie à la beauté. Donc, je trouve que ce nom a réuni très bien l'aspect combattant et guerrier du personnage en même temps que son aspect tout simplement beau.
Mais est-ce qu'il serait possible d'imaginer un roman de Néhémie Pierre Dahomey dont l'héroïne s'appellerait par exemple Serena ou Salomé qui signifie paix ou même Néhémie, tiens, parce que Néhémie au féminin dans son acception, au-delà de l'acception religieuse, ça se traduit généralement par sucré ou heureux. Alors est-ce que Néhémie pourrait écrire un destin sucré et heureux de femme?
J'aimerais bien, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Comme je viens de le dire, plus que les émotions de larmes, ce que je préfère, c'est les grands émois et les épopées. En ceci, je suis conforme à une tradition aussi vieille que la littérature elle-même, hein, depuis Homère, l'Iliade, les grands personnages d'Ulysse. Je suis conforme aussi à mes lectures, mes écrivains préférés. Je cite beaucoup Gabriel Garcia Marquez. J'ai rencontré dernièrement Olga Tokarczuk. Je cite beaucoup José Saramago, Amadou Mpateba. Enfin, c'est des auteurs qui sont, et des autrices qui sont souvent dans le côté épique de la narration, plus que dans le côté, à ne pas prendre de manière péjorative du tout, plus que dans le côté doux et larmoyant. Je pourrais tenter une Némie douce et comment, c'est quoi le mot que vous avez dit ?
Sucré et heureux.
Je ne sais pas si j'y arriverai. Alors, ceci dit, c'est une pudeur, hein, parce que j'aime beaucoup la douceur. Comment pourrait-on ne pas l'aimer ? Mais je n'aime pas quand elle s'avoue trop. Il faut que ça reste un acte manqué. J'aime pas trop les « je t'aime », j'aime plutôt une main sur la mâchoire. C'est un rapport avec c'est une habitude familiale presque. Hein. Chez moi, on s'est jamais vraiment dit « je t'aime ». Donc, le sucre, c'est pas trop pour moi. Ceci dit, encore une fois, ce qui n'exclut pas le doux, mais il faut pas que le doux se donne trop à voir. Enfin,
d'accord.
Un peu de pudeur, quoi.
Ce qui est également frappant dans votre œuvre, et d'ailleurs maintenant que j'y pense, qu'on retrouve également dans toute l'œuvre des auteurs que vous avez cités, c'est cette profusion de personnages, et chaque fois, comme si tous les personnages étaient aux prises avec leur propre folie, sinon la folie collective, la terre elle-même, chez vous, semble agitée par ses propres factures, et puis il y a la culture d'Haïti, très forte, très prégnante. Dans Combat, on rencontre des coqs de combat, des conteurs délurés, des reines chanterelles, ce qui nous renvoie ici au culte vaudou. Et j'ai lu, je ne sais plus où, qu'on dit d'Haïti qu'elle est à 90% catholique, à 100% vaudouisante. Bon, c'est une formule, mais tout cela est très palpable, en fait, très vivant dans votre écriture. Et en fait, je me demandais, je ne sais pas si la question est bien posée, mais je me demandais ce qu'Haïti, sous le tumulte, laisse comme place à l'intime.
Oh, l'intime n'a même pas besoin qu'on lui laisse de la place. On a toujours une intimité, quel que soit le niveau de tumulte, il me semble. Hein.
Je comprends parfaitement cette réponse, mais je pensais, il y a des fois des contextes tellement forts. Je pense, imaginons dans des personnages comme Roméo et Juliette, par exemple, l'intime ne peut pas exister. Pourquoi ? Parce que la famille, parce que la société, etc.
Pourtant,
Dracula,
pourtant, c'est le roman le plus intime. Enfin, le roman, la pièce de théâtre qui est déclinée en roman, déclinée en toute une culture. Je pense que Shakespeare est fautif d'avoir inventé l'amour. si ça c'est pas intime. Donc oui, c'est-à-dire justement étouffé par les contradictions sociales, personnelles et le contexte narratif, puisqu'il s'agit quand même de fiction, même si fiction qui a débordé la vie et qui provoque tellement de divorces et de douleurs aujourd'hui que bon... ce monsieur aura à répondre de beaucoup de choses, le Shakespeare. étouffé par tout ça, on ne peut pas nier que Roméo et Juliette soient quand même une histoire non seulement d'amour, mais d'intimité.
Ah oui, mais ils ont, voilà, on sait le choix qu'ils ont dû faire tellement elle n'était pas possible, cette intimité. J'entends bien sûr qu'elle est, elle jaillit partout. Elle jaillit partout, mais c'est simplement, est-ce qu'il y a possibilité encore de la...
Oui,
c'est
justement
quoi.
Raison pour laquelle je maintiens ma réponse, à savoir que l'intime arrive toujours à creuser son sillon, quelle que soit l'ampleur de ceux qui pèsent sur lui.
Mais ça me va parfaitement comme réponse, je trouve ça très rassurant.
Oui, mais c'est-à-dire que rassurant ou pas, parfois on a envie de s'en débarrasser de sa vie intime. Et il arrive même à chacun... je suppose, hein, en tout cas c'est mon cas, d'avoir envie de se débarrasser de soi-même. Et, des fois on se lève à 3h du matin, c'est souvent vers ces heures-là que ça se passe, quand on a eu un premier sommeil, et on se rend compte qu'on est encore là avec soi-même. ça peut être assez décevant parce que c'est souvent un moment où on veut s'oublier la nuit, c'est-à-dire on veut s'oublier soit dans le sommeil, soit, je ne sais pas moi, l'alcool, l'amour, enfin suivant les pratiques de chacun. Et il arrive, et c'est souvent quand on dort seul d'ailleurs, qu'on se réveille avant l'heure prévue et qu'on est cerné par soi-même. On dit « putain, je suis encore là », mais c'est pas « je suis encore là dans cette pièce », c'est « je suis encore là dans moi-même ». Et à ce moment-là, on aurait préféré, je suppose, se débarrasser de cette intimité qui est un vis-à-vis, un face-à-face avec soi-même. Tout ceci pour vous dire que l'intime n'est pas toujours forcément une bonne chose. La douceur, n'est-ce pas, n'est pas toujours... Bon, ça peut être trop doux aussi. Mais ça creuse son sillon, c'est comme ça. On a une vie intérieure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a une vie intérieure et il se trouve
qu'importe
que...
Qu'importe le tumulte extérieur.
Voilà. D'accord. Et il se trouve que cette vie intérieure se met souvent en commun, quel que soit le tumulte extérieur.
Ouais. Bon, très bien. C'est parfait. C'est très bien. J'aimerais que nous parlions maintenant de votre présence, en fait, ici à Laval. Et pour démarrer, peut-être un souvenir. Votre première venue, c'était à l'édition 2018 du Festival des Premiers Romans pour votre roman Rapatrié. Est-ce que vous gardez un souvenir particulier de cette première venue à Laval? Ou à des fois, est-ce que vous pouvez en inventer un? C'est important pour nous, pour les archives.
J'ai même pas besoin d'inventer. Je suis assez chanceux parce qu'il s'est passé une vraie histoire. Alors, comme souvent les histoires, elle a commencé avec une faute. C'est que le festival du premier roman ne m'a pas accepté pour que je fasse partie des premiers romans à Laval en 2018. Je leur en tiens rigueur, d'ailleurs je le dis à la radio. Elles ont boudé mon roman. Donc je n'ai pas fait partie des 18 auteurs acceptés sur la centaine ou je ne sais pas combien de premiers romans y a-t-il tous les ans. Sauf que chassez-moi par la porte, je reviens par la fenêtre. J'ai eu le prix Révélation 2017 de la Société des gens de lettres pour le roman Rapatrié.
D'accord.
Et il se trouve que le festival a une sorte d'accord avec la Société des gens de lettres qui veut qu'ils reçoivent le festival, les auteurs ou les autrices qui ont le prix Révélation de l'année en cours, de l'année passée. Par conséquent, le festival était bien obligé de me faire venir en su des 18 auteurs acceptés. C'est-à-dire que je suis quand même rentré par la grande porte grâce à un prix littéraire.
Bon. C'était donc absolument pas immérité.
J'espère bien. Et puis, bon, je suis venu à Laval. J'ai fait les 2 jours de festival qui m'ont été impartis. Et à un moment donné, j'ai l'air comme ça, mais il arrive que je m'éclipse dans les soirées, que je passe pas toute la soirée à boire. Je suis parti laissant mes autres camarades, lecteurs, lectrices et autrices dans le bar. J'ai longé la Mayenne et là m'est venu un poème que j'ai créé plus tard. Et ce poème existe encore. Je l'ai envoyé comme argument au comité de la résidence pour me faire accepter et revenir ici. Donc il y a une vraie histoire qui commence avec ma déception de ne pas être accepté à Laval pour le premier roman, ma remontada.
Oui.
Quand j'ai eu le prix de la Révélation de la Société des gens de lettres et ce poème qui m'est arrivé à Laval que j'ai écrit plus tard, où le personnage du poème, parce que c'est un poème plutôt narratif, marche dans la rue, dans la rue, sur le bitume, au bord d'un cours d'eau. Et il se trouve que ce cours d'eau, c'est la Mayenne.
Ouais, il existe à côté de ça des romans fleuves, mais là, c'est plutôt donc un poème rivière.
Un poème rivière, oui. C'est parfait. On peut le dire comme ça.
Bon, je vous propose maintenant de nous rafraîchir la nôtre de mémoire, en tout cas pour celle que vous avez découvert quand même grâce à ce premier roman. Pouvez-vous... nous offrir, si ça ne vous dérange pas, un extrait de ce premier roman en lecture?
Oui, je vais lire un extrait. Alors, Pauline arriva vers midi, alors qu'un soleil de plomb criblait le grand manque d'air habituel du mois de septembre. Bonhomme la présenta à Madame Pompilus comme une intéressée à des enfants à venir. De cette présentation, elles se firent chacune une idée précise. Madame Pompilus, que ce monsieur ne manquait tout de même pas d'air de choisir comme cela parmi ses enfants. Pauline Lagarde, qu'effectivement, bonhomme ne manquait pas d'air, mais que sa bonne volonté et sa sympathie autorisaient presque tout. Bonhomme, pour sa part, ne se faisait aucune idée de sa propre hâte, ne les lâcha pas d'un millimètre lors de leur brève conversation, appelez cela un entretien formel, pendant lequel Madame Estimée vanta le bien fondé de son travail sous le regard dubitatif de Pauline Lagarde. En passant en revue les enfants parmi lesquels il aurait fallu choisir, s'il n'y avait pas eu le bon plan de Joël Bonhomme sur la base de critères sans passé et sans histoire, les entrailles de Pauline firent quelques tours sur elle-même. L'espace d'un ciment, elle crut basculer dans le dégoût ou la révolte, mais elle tint bon, en partie par considération pour la patience de Madame Estimée, en partie par curiosité frénétique, en fin de compte, parce que la combine de bonhomme garantissait la bonne conscience de deux fillettes avec histoire, dont elles pouvaient rencontrer les géniteurs sans l'intermédiaire propagandiste de Madame « J'ai tout ce qu'il vous faut ». Ces dames se revirent 2 mois plus tard, en décembre, quand Pauline voulut hâter son départ avec Bélial qu'elle s'accoutumait déjà, en l'absence de Bélie, à appeler sa fille. Il se trouvait que Pauline Lagarde, après avoir pris le monde dans ses bras dans une étreinte humanitaire de plus de 20 ans, découvrait en elle le précipice de n'avoir jamais connu le mou bonheur d'un petit corps chaud contre sa poitrine. Alors elle jeta son dévolu sur l'enfant comme cette vis qui manquait depuis longtemps à la bonne marche du monde. La première fois qu'elle la vit, 25 jours après sa première visite à la crèche, elle découvrit d'un simple regard l'une des clés du mystère de Bélial. La petite était belle, d'une de ces beautés atroces, comme en mouvement, comme un épanchement intérieur prenant la forme du corps. Pauline reçut Bélie et Bélial à Maison 5. Bonhomme, fidèle à lui-même, insista pour assister aux échanges. Pauline demanda à rester un moment dans sa chambre avec la fille, qui la suivit sans rechigner, décidée à se laisser faire, comme si elle comprenait le caractère irréversible de son destin entamé. Une fois dans la chambre, Pauline Lagarde prit la fillette dans ses bras, lui caressa les joues sans rondeur et le front sec, la palpa, étonnée au bord de la panique, se demandant comment les tourmentes de la vie avaient pu dissimuler une si impitoyable séduction. Pauline garda la petite dans sa chambre pendant un moment invraisemblable, au cours duquel M. Bonhomme, pasteur Joël, rappela à Bélie que ses enfants étaient désormais sous les ailes du Tout-Puissant, qu'elle ne devait avoir aucun doute vis-à-vis des desseins divins. Il tenta ainsi de calmer Bélie, qui continuait à se rendre compte de l'ambiguïté de son don, de ce que cela impliquait pour elle que d'être réellement privée de son enfant. Ce temps d'absence, plus que quand elle partait de la crèche et y laissait les fillettes, dura un interminable opprobre.
Merci, merci pour ce souvenir. Avec tous ces prénoms, il y a tout le monde autour qui se ravive. C'est très agréable. Nous allons maintenant évoquer votre résidence à Laval. Alors, une résidence d'écriture, c'est avant tout un lieu pour écrire. Et là, je vais me permettre de dévoiler un scoop, mon cher Néhémie.
Oui.
Lors des entretiens avec l'association pour préparer votre venue, vous avez demandé d'être hébergé dans un lieu qui vous permettrait, tant que possible, de jouer de la musique sans gêne pour le voisinage, tant cette activité est liée à votre inspiration littéraire. Alors ça, maintenant, il faut m'en dire un peu plus.
Ah non, pas à la radio. Vraiment, vous n'êtes pas des gens bien, les journalistes, hein. Ce qui se passe, c'est que moi, je ne voulais pas que ça se sache. C'est que depuis peu, je suis amateur d'un instrument que je ne vais même pas citer. Tellement j'en fais mystère et tellement je ne suis pas doué, franchement. Je suis même assez mauvais. Mais j'aime beaucoup parce que ça me permet de me concentrer. Et puis, c'est un nouvel apprentissage. Ça aide toujours à la concentration. Et partout où je vais, je trimballe cet instrument avec moi et j'en joue tous les jours, allez, 10 minutes, 20 minutes, mais j'en joue tous les jours. Je prends des cours une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine. Mais c'est vraiment c'est vraiment embêtant parce que les gens risquent de s'imaginer que je suis là comme un virtuose.
Ah non, non, pas du tout. Non, mais moi, ce qui me parle, c'est le... Enfin, d'ailleurs, virtuose ou pas, c'est plutôt le processus. C'est comment le fait de vous mettre... Comment, voilà, le fait de jouer cette jonction. Moi, je suis musicien.
Également. Oui, je le sais, mon cher Philippe.
Simplement, moi, ça ne déclenche pas de gestes d'écriture derrière. Pour moi, c'est justement un monde sans les mots. Et alors, vous, il y a une connexion, il y a une jonction qui se fait directement.
Justement, c'est-à-dire que ce monde sans les mots que vous désignez très bien, ce qui se passe, c'est que fatigué des mots, à un moment donné, leur recherche et le fait de les pêcher comme dans une eau qui coule, parfois trop vite, parfois trop lentement, pour trouver les bons, on crée du silence des mots avec de la musique pour pouvoir mieux réfléchir. Y a plusieurs options. Hein. On peut aller regarder une débilité sur Internet, sur Facebook, ou une débilité ou pas d'ailleurs. Hein. On peut aller polémiquer sur Twitter ou aller consommer de la pub sur Instagram. Hein. On peut faire tout ça. Mais on peut aussi adopter un instrument. Quand on a marre de ces 2 heures de concentration ou de ces 45 minutes, ça dépend des jours, faire un break.
Et en fait, ça vous. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça vous concentre, ça vous. En fait, ça fait un sas par rapport
ça,
au.
Ça fait un sas. D'accord. Ça fait un sas. Et puis, bon, certains utilisent le café ou la cigarette pour respirer. Bon, d'autres essaient de transiter vers un instrument de musique. Mais c'est un truc qui me rend un peu timide puisque vraiment, moi qui pourtant peux être confiant sur pas mal de choses, je suis assez mauvais dans cet instrument. J'ai voulu épargner le voisinage non seulement... du son, mais aussi du mauvais son.
Mais en tout cas, il permet de vous exprimer, mais autrement, en tout cas, c'est quand même par ce biais, vous passez par là, quand même, pour vous mettre dans un état, on va dire, dans un état d'écriture.
Oui, oui. Oui, et aussi, ça me permet je ne peux pas dire de penser à autre chose.
Ouais.
De penser à autre chose qu'au personnage, aux mots, à leur agencement.
D'accord. Mm-hmm. Ah oui,
ça me permet de, oui, voilà. Ça me permet de penser à autre chose. Après, si au bout de tout ça, je finis par vraiment connaître un instrument et éprouver d'autres formes de plaisir que la lecture ou le cinéma, ça me va aussi. Mais pour le moment, on n'est pas encore là.
D'accord, le moment, très bien. Mais je ne vous demanderai pas là, l'antenne, de nous jouer un petit quelque chose.
Oh non, ça n'arrivera pas.
C'était pas l'idée. Bon. Une résidence d'écriture, c'est aussi évidemment une occasion de rencontre, de rencontre avec les habitants, les publics, lecteurs ou pas. Et pour ça, vous avez imaginé 2 programmes d'ateliers. Alors l'un appelé Éthique érotique, sous forme de séances de lecture, écriture réparties sur 4 mois au local de lecture en tête. Malheureusement, à l'heure où cette émission est diffusée, ces ateliers ont déjà démarré, les inscriptions sont déjà clôturées. Je ne peux même pas vous demander comment ça se passe parce que nous parlons dans un espace-temps antérieur à la première séance. Mais peut-être pouvez-vous nous résumer l'enjeu de ces ateliers?
Oh, je pense que sur le site de Lecture en Tête, il y a les 2 ateliers sont très bien décrits. Alors j'invite les auditeurs et les auditrices à faire un petit coup d'œil, à jeter un petit coup d'œil si ça les intéresse. Pour le premier atelier, je ne saurais vous dire parce que c'est la première fois que je vais le faire et que j'en suis encore à choisir les textes, à les proposer aux participantes. Donc, l'atelier éthique érotique, je ne prendrai pas le risque de le décrire maintenant. Pour le second...
Pour le second, il est encore temps hein, de s'inscrire. Cette deuxième proposition, c'est en partenariat avec les bibliothèques de Laval et de Château-Gontier. Mm-hmm. Et donc, je vous
laisse. Oui, ça s'appelle l'atelier de l'objet fétiche. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de faire un tel atelier. C'est d'amener les gens à découvrir autour d'eux, je ne dirai pas trop de détails, mais quelque chose de très important pour eux. Et à partir de ce quelque chose qui a une histoire particulière que je décrirai avec les participantes et participants, amener à un travail d'écriture. Cet atelier porte très simplement son nom, Atelier de l'objet fétiche. Et tous ces objets...
Le musée,
le musée de l'objet fétiche. Et tous ces objets, justement, j'allais y arriver, sont exposés physiquement ou pas à la fin de l'atelier sous forme d'un genre de musée créatif, investi et fait par les participantes.
Ah oui, ça donne envie. Et alors ça démarre fin janvier. Et à cela s'ajoute une flopée de causeries littéraires réparties du nord au sud du département, chaque fois accueillies par les bibliothèques ou médiathèques des différents territoires. La première, je crois, ce sera à la médiathèque d'Evron le vendredi 9 février. Et bien entendu, comme vous le disiez, Néhémie, toutes les dates, tous les lieux sont à retrouver sur le site de Lecture en Tête, où tout cela est bien précisé.
Oui.
Et l'émission approche déjà de son terme. Et j'avais tenu à entamer cet entretien par une musique de votre choix. Et nous le terminerons par une autre musique, toujours de votre choix, mais celle-ci semble raconter toute autre chose de vous. Pouvez-vous nous la présenter ?
Je laisse d'abord les gens écouter. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas voulu être trop indicatif, vu que j'ai un goût très, hétérogène en musique. Et j'ai seulement indiqué un album. J'en ai indiqué plusieurs. J'ai indiqué un album de Leonard Cohen, un album de Bill Callahan. J'ai orienté. C'est comme si j'avais fait une négociation avec Lecture en Tête pour choisir ce morceau. Parce que j'étais tellement sur quelque chose de différent, d'hétérogène, que je me suis fait aider.
D'accord.
Dans le choix par Lecture en Tête.
Et donc les collègues ont choisi un album de Bill Callahan.
Oui.
Et le titre.
Je sais ce qu'ils ont choisi. Oui.
Ouais.
Mais écoutons-le si vous voulez bien, le morceau.
D'accord, mais je suis très heureux de découvrir ça en votre compagnie. Mais avant, il me reste à vous remercier, Néhémie Pierre Dahomey.
Ah oui, ce sera le morceau de fin.
C'est ça, c'est un morceau
merci,
de clôture.
Merci beaucoup.
Et voilà, vous remercie d'être ici. Donc, évidemment, ici sur notre territoire, je vous dis donc à très bientôt. Les occasions donc ne manqueront pas. Et puis, évidemment, à très bientôt à tous. C'était Lecture en Tête à Tête, une émission présentée aujourd'hui par Alexandre Gosse, réalisée comme toujours par le fabuleux Joël Flambard. Maintenant, je me tais et on écoute.
Merci Alexandre, merci Joël, au revoir.
Said he had to go. Last one at the party. We thought he'd never leave. To go toe to toe. Eyes like typewriters, held all the poetry you'll ever know. Last one at the party. He always said he had to go. Last one at the party. We thought he'd never leave. go back in for the cat. The last one at the party. He always said he had to go. Last one at the party. We thought he'd never leave.